Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui sont de passage et qui ont choisi de venir prier avec nous aujourd'hui en ce beau dimanche de la Trinité. Nous voulons ensemble méditer sur ce mystère de Trinité tel que nous présente la parole de Dieu. Nous venons de célébrer le temps pascal qui a été couronné par la fête de la Pentecôte. Nous avons vécu l'expérience de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons aussi vécu l'expérience de ce paraclet, un autre paraclet qui nous avait promis et qui devait être au milieu de nous pour nous aider à glorifier Jésus et à honorer le Père. Et quand nous regardons, toute la structure de notre liturgie tourne autour de cette Trinité, hein, toujours l'Esprit, pour glorifier Jésus, pour honorer le Père. À la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Et nous voyons cette trilogie à travers toute notre liturgie chrétienne. Mais de quoi s'agit-il? Parce que la parole de Dieu et en même temps l'Église dit, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu et trois personnes. Comment comprendre cette Trinité à l'intérieur de l'unicité de Dieu? C'est vraiment ce que je voulais un peu vous aider à acquérir. C'est ne regardez pas la complicité de ce mystère, regardez simplement sa simplicité, la façon dont Dieu se donne à nous. Quand nous regardons en fait l'histoire de la Bible, parce qu'il s'agit de la révélation de Dieu, le problème des enfants de Dieu c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu. Apprendre à connaître le Dieu compris. Apprendre à connaître le Dieu avec lequel on entre en relation. Et c'est très important. La Bible est un livre qui nous révèle ce Dieu-là au fil des temps. La connaissance de Dieu n'est pas donnée du coup. La connaissance de Dieu est progressive. C'est pour cela qu'à travers le temps, nous voyons comment Dieu se révèle. Dans l'ancien temps, Dieu était lointain. Il était vraiment lointain. De sorte qu'on ne pouvait pas le nommer. Les gens ne pouvaient pas prononcer son nom. C'est seulement après des années qu'on a mis des voyelles pour prononcer le nom de Dieu qui est devenu Yahweh pour nous, Yehovah pour les autres. Donc c'est vraiment, il n'y avait que des consonnes pour que personne ne prononce le nom de Dieu. Il était lointain, il était très saint, il était un Dieu qui pouvait punir quand on prononçait son nom. Et alors on a trouvé des détours pour parler de Dieu dans l'Ancien Testament. Il était toujours le Dieu lointain, mais qui s'éteignait sur les montagnes. Ou encore un Dieu qui s'éteignait en l'air pour accompagner l'armée du peuple de Dieu. Et alors on va lui donner le nom d'Adonai, on va lui donner le nom El Shaddai, le Dieu des armées, et Adonai, le Seigneur, le Dieu de montagne. Et après, finalement, on va réaliser que tout autour, il y avait des populations, des nations qui priaient d'autres dieux. Et alors, pour montrer que ce Dieu-là était au-dessus de d'autres dieux, ils vont lui donner aussi un autre nom qui va être Elohim. Donc, en fait, pour entrer en relation avec ce Dieu-là, il se servait d'autres noms pour l'appeler et pour le prier. Parce qu'il était lointain, c'était un Dieu qui était très saint, et l'être humain ne pouvait pas s'approcher de lui. Avec le temps, l'homme va réaliser aussi une deuxième réalité que non seulement Dieu est loin, mais lui, il continue à faire l'expérience du mal. C'est-à-dire, il est impuissant à faire le bien. L'homme est pris dans un engrenage de mal. Il va confesser, il retombe. Il va confesser, il retombe. Il va confesser, il retombe. De sorte que l'homme est incapable de se sauver par ses propres œuvres. Dieu voyant cela, Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, les hommes vont multiplier ce qu'on va appeler les sacrifices. Ils vont tuer des bêtes à tour de rôle, parfois jusqu'à 1000 sacrifices, simplement pour invoquer la miséricorde de Dieu. À un moment donné, Dieu lui-même va prendre l'initiative et dire, l'homme, l'être humain ne peut plus se sauver par lui-même. Il s'enfonce de plus en plus dans le mal. Ça prend une intervention du ciel. Il dit, moi-même, je veux aller habiter au milieu d'eux. C'est ça que Dieu dit. Je veux moi-même aller habiter au milieu d'eux. Comment? En prenant corps. Dieu va venir habiter au milieu de nous en prenant corps. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 9 que nous lisons à Noël, quand nous parlons de Dieu qui se fait corps, qu'est-ce qu'on dit de cet enfant qui se fait corps? On l'appellera Dieu fort. Il s'agit de qui? De Jésus. Mais on va l'appeler Dieu fort, Père éternel. Mais qui? Jésus. On l'appellera conseiller merveilleux. Qui? Jésus. Donc on voit les attributs de Dieu, Dieu fort, Père éternel, sont donnés à l'enfant qui va naître. En d'autres termes, Dieu lui-même vient prendre corps dans l'enfant. Mais la nature de Dieu ne s'épuise pas dans l'enfant qui est là. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, Dieu, dans la révélation de l'histoire, d'abord il est lointain, Adam, après il s'est fait proche pour aider les humains à être sauvés. Ça prenait qu'un Dieu vient de parler leur langage et vient de leur montrer le chemin à prendre pour entrer maintenant en relation avec le ciel. Alors il s'est fait proche de nous en prenant corps. En quelque sorte, Dieu était comme limité dans un corps. Mais la nature de Dieu n'était pas limitée dans le corps de Jésus. La nature de Dieu était plus grande que le simple corps de Jésus-Christ. C'est ça que je suis en train de vous dire. Parce qu'en lui, il y avait un Dieu fort, il y avait un Père éternel, il y avait un conseiller merveilleux. Le Dieu fort, le Père éternel, c'est le Dieu que nous appelons le Père. Le conseiller merveilleux, c'est la nature du Saint-Esprit. Pourtant, les deux sont donnés dans l'être de Jésus-Christ. On voit déjà, dès la naissance de Jésus, cette trinité qui se fait par le nom qu'on donne à Jésus. Jésus va prendre quel nom? Emmanuel, Dieu avec nous. Il va prendre le nom de Dieu, Dieu avec nous. El Shaddai, El Manuel, c'est ça, Emmanuel. Donc, Emma, El à la fin, El Shaddai, le même nom que Dieu. Et alors, quand Jésus va vivre sur la terre, Philippe lui pose la question, à un moment donné, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus le regarde et dit, Philippe, comment peux-tu me demander de voir le Père? Tu ne comprends pas que celui qui m'a vu a vu le Père. On l'appellera Père éternel. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que le Père est en moi? Remarquez donc, la Trinité est là, dans sa simplicité. La Trinité est là. Nous mettons des noms simplement pour clarifier les différentes étapes de la révélation de l'histoire. Mais la Trinité est dans la simplicité. Jésus dit clairement, celui qui me voit, voit le Père. Et après, avant de quitter cette terre, il va dire à ses apôtres, je m'en vais, mais vous allez recevoir un autre paraclet. En d'autres termes, tout en disant, celui qui me voit, voit le Père. Il dit encore, moi je suis le premier paraclet, vous allez recevoir un deuxième. Mais le deuxième paraclet, c'est l'Esprit. Donc Jésus dit, moi je suis le premier Esprit. Vous allez recevoir un deuxième qui va venir vous entraîner, il va vous conduire. Et alors il dit, à cause de cela, vous voyez, Jésus dit dans l'évangile que nous venons d'entendre, et alors je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Au niveau de la compréhension humaine, nous disons, Jésus est assis à la droite du Père dans le ciel. Mais au niveau de la Trinité, il est avec nous tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est en même temps l'Esprit qui est en nous. L'Esprit qui dirige depuis la Pentecôte l'Église. Donc Jésus se fait présent à travers l'autre paraclet. D'ailleurs, si vous lisez l'Évangile de Jean au chapitre 14, vous allez voir toute la notion que Jésus parle de lui, il parle de l'Esprit. Il parle de l'Esprit comme s'il parlait de lui, et il parle de lui comme s'il parlait de l'Esprit. En même temps, on voit dans le chapitre 14 de Jean, il y a une confusion entre Jésus et le Saint-Esprit. Il va venir, vous, le monde ne reconnaîtra pas cet Esprit-là, mais vous allez le reconnaître parce que vous le connaissez déjà. Il dit à ses apôtres, comment vous le connaissez? Mais parce qu'il est au milieu de vous. Et il parlait de qui? De lui-même. Donc, par moments, Jésus s'identifie au Père. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui me voit, voit le Père. Par moments, il s'identifie au Saint-Esprit et dit justement, vous allez connaître quand l'Esprit viendra parce que vous le connaissez déjà. Comment vous le connaissez? Il est au milieu de vous. Je suis le premier paraclet. Je suis le premier paraclet, le premier consolateur. Lui viendra, mais dans la dimension de l'esprit. Vous m'avez vu dans la dimension de la chair. Bon, maintenant, je vous explique toutes ces choses. En fait, je termine avec, en apportant deux exemples concrets pour que nous comprenions vraiment ce que je suis en train de dire. Le premier exemple, je prends dans nos relations habituelles. Chez nous, les Africains, c'est très très fort. Mon grand frère est père de 6 enfants, donc il est papa. Ses enfants l'appellent papa. Au mois de juillet, je vais aller chez lui, je serai chez lui. La même personne, moi, quand je vais l'appeler, je vais dire, grand frère, est-ce que je peux avoir ceci? Et au même moment, quand son fils va l'appeler, il dira, papa, est-ce que je peux avoir ceci? On va s'adresser à la même personne. Moi, je vais l'appeler grand frère. Son fils va l'appeler papa. Et si le fils de ma soeur qui est en France vient me rejoindre, on sera donc ensemble. Moi, le petit frère, le fils de mon frère, et puis le neveu de mon frère. Nous serons tous dans la même maison. Alors, nous allons appeler la même personne, mon grand frère. Je l'appellerai grand frère. Je veux avoir ceci. Son fils va dire, papa, je veux avoir ceci. Mon neveu va dire, oncle, je veux avoir ceci. Ça sera la même personne. Mais chacun va l'appeler sous un angle différent par rapport au type de relation qu'il entretient avec lui. La même personne, il n'a pas changé. Mais selon l'angle pour moi, mon angle à moi, c'est mon frère aîné. L'angle de l'autre, c'est le fils, c'est son papa. L'autre là, c'est son neveu, alors c'est son oncle. L'angle détermine la façon dont nous appelons la même personne. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est notre relation à travers le temps qui change, mais Dieu reste le même. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste à travers le temps sous forme d'un Dieu lointain qu'on a appelé le Père, sous forme d'un Dieu proche qu'on a appelé Emmanuel, Dieu avec nous, et sous forme de l'Esprit, parce qu'au commencement, Dieu était Esprit. Le deuxième exemple que je peux prendre, c'est le soleil. Quand nous regardons dans nos journées, qu'est-ce que nous voyons ? Quelqu'un peut dire, ah, regarde le soleil. Mais en réalité, nous ne voyons pas le soleil. Parce que si nous voyons le soleil, nous allons nous brûler les yeux. Nous ne voyons pas le soleil. Ce que nous voyons, c'est deux choses. Nous voyons la lumière du soleil et nous voyons la chaleur du soleil. Deux choses seulement. Nous ne voyons pas le soleil. On ne peut pas voir le soleil et avoir les yeux normaux. Si tu vois le soleil, tu vas te brûler les yeux. Mais nous le voyons à travers la lumière. Mais est-ce que la lumière est le soleil? Mais non. Il y a une partie du soleil dans la lumière, mais la lumière n'est pas le soleil, sinon on ne l'appellerait pas la lumière. Est-ce que la chaleur est le soleil? Mais non. La chaleur, c'est une partie du soleil, mais la chaleur n'est pas le soleil. En d'autres termes, il y a le soleil dans la lumière, il y a le soleil dans la chaleur, mais la lumière n'est pas le soleil, la totalité du soleil, et la chaleur n'est pas la totalité du soleil. Le soleil est le même. Parfois, il donne la lumière, parfois, il donne la chaleur, ou parfois, il donne les deux. La lumière et la chaleur. Mais le même soleil. Vous voyez, si nous mettons une analogie un peu forcée, nous allons dire Dieu est le soleil, Jésus est la lumière, et le Saint-Esprit est la chaleur, le feu. Mais c'est toujours le même soleil qui se révèle à travers la lumière. Nous le voyons sous forme de lumière, nous l'appelons lumière, mais c'est le soleil. Nous le voyons sous forme de chaleur, nous ressentons la chaleur, nous disons la chaleur, mais c'est toujours le soleil. Parce que la chaleur n'est pas la lumière n'est pas la chaleur, mais les deux font partie du soleil. C'est comme ça que nous pouvons comprendre ce que nous appelons la Trinité. Parce que le danger, c'est de tomber dans trois dieux. La Bible ne parle pas de trois dieux, la Bible parle d'un seul Dieu. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Un seul Dieu tu vas adorer. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Alors, la Trinité nous est donnée pourquoi? La Trinité, en fait, c'est un mystère qui est donné à nous les humains pour nous permettre de comprendre notre passage sur la terre. D'un point de vue biblique, la Bible dit ceci, à part les autres éléments et créatures ont été créés comme ça, mais l'être humain a été conçu avant la création. La Bible dit, Dieu a dit, on va le faire à notre image et à notre ressemblance. Avant de faire l'homme, Dieu a dit cela. Donc, il était conçu selon un modèle qui était l'image et la ressemblance de Dieu. Or, la nature de Dieu, c'était quoi? Esprit. Dieu était esprit. Dieu est esprit. Donc, la première nature de l'être humain, c'est l'esprit. Et l'être humain vient à un moment donné, il prend corps comme Jésus. Dans l'histoire, Dieu est esprit. À un moment, il prend corps en Jésus. Et après, c'est l'Esprit Saint qui revient. Et la parole de Dieu nous montre à travers la Trinité notre cheminement sur la terre. Nous sommes esprits, nous venons dans un corps pendant un moment donné, après nous mourons et nous retournons dans l'esprit. Exactement comme la Trinité. Donc la Trinité vient nous révéler notre nature profonde pour que nous ne puissions pas oublier cela à cause des préoccupations de ce monde. Notre nature profonde, c'est que nous sommes d'abord esprits. Nous venons prendre corps à un moment donné ici dans notre histoire et après nous mourrons pour retourner dans la dimension spirituelle. C'est ça notre nature fondamentale. Comme Dieu est esprit, il prend corps et il retourne dans la dimension spirituelle. Ça c'est la première leçon, je pense, de la Trinité. La deuxième leçon de la Trinité et la dernière, c'est vraiment la communion. C'est-à-dire que la Trinité est là pour nous inviter à développer une relation de communion entre nous. Une relation de communion. Nous devons, en même temps que nous croyons au même Dieu, nous devenons comme un corps. Nous devons développer la communion entre nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est d'abord une relation de communion. Il n'y a pas de différence. Ils sont différents dans leur nature, comme la lumière est différente de la chaleur, mais ils ont la même origine qui est le soleil. Et la parole de Dieu nous dit la même chose. La Trinité doit nous pousser à développer des relations de communion. Cette communion n'est pas simplement à développer entre nous, parce que nous sommes l'Église catholique ici dans le milieu, mais cette communion, nous devons aussi la développer avec tous ceux qui jouissent de la même lumière et de la même chaleur, du même Jésus et du même Saint-Esprit. Nous devons développer une communion avec eux. J'aime le dire et le répéter. Notre ennemi commun, ce ne sont pas les protestants. Notre ennemi commun, ce ne sont pas les pentecôtistes. Notre ennemi, ce ne sont pas les évangéliques. Notre ennemi, ce ne sont pas les chrétiens. Notre ennemi, c'est Satan, le diable. N'oubliez pas des cibles. N'oubliez pas des cibles. Le combat que nous menons, c'est contre Satan et ses valeurs, et ses antivaleurs. Ce n'est pas contre des gens. Nous avons des différences, comme la lumière est différente de la chaleur. Nous avons des différences au niveau des dénominations. Nous, les catholiques, la même Bible, le même Dieu, le même esprit, mais nous avons aussi nos pratiques qui nous sont propres. Les autres, les pentecôtistes, même Bible, même esprit, ils ont aussi donc des points qui leur sont forts sur lesquels ils insistent. Les évangéliques, même Bible, même esprit, mais ils ont aussi des points qui leur sont propres sur lesquels ils insistent. Les baptistes, c'est la même chose. Nous avons des différences, mais nous ne sommes pas des ennemis. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous n'avons pas à nous battre contre nous. Notre ennemi, c'est le diable. C'est les contre-valeurs du diable de contre lesquelles nous devons nous battre et non pas les autres églises chrétiennes qui jouissent du même soleil, qui reçoivent la même lumière et qui reçoivent la même chaleur qui est le Saint-Esprit. Nous devons bien cibler notre ennemi. C'est Satan qui est notre ennemi. Quand les églises chrétiennes prient Dieu pour notre ville, c'est toute la ville et les familles catholiques et les familles protestantes, toutes les familles reçoivent la bénédiction du ciel. Quand nous, les catholiques, nous prions Dieu pour le monde entier, quel est le monde? Même les chrétiens, même les pentecôtistes, ils reçoivent la bénédiction que nous demandons à Dieu. La bénédiction du ciel descend sur toutes les familles, qu'ils soient catholiques, protestantes, pentecôtistes, la bénédiction de Dieu, parce que nous prions Dieu pour le monde, eux aussi reçoivent. Quand les évangéliques prient Dieu pour demander la bénédiction sur la ville, nous tous nous recevons les bénédictions que eux demandent pour notre ville. C'est ça en fait que je suis en train de vous dire. Parce que notre ennemi, c'est le diable. Nous devons nous attaquer au vrai ennemi et ne pas nous distraire avec les choses qui ne sont pas en fait les choses de Dieu. C'est très important ce que je vous dis là. Parce que nous devons vraiment mener le bon combat. Les temps sont mauvais. Le Seigneur nous dit clairement, nous devons apprendre à aimer. L'amour doit être développé. Quand nous développons une haine envers les autres, nous tombons dans le piège de l'ennemi. C'est ça qu'il aime, la division. C'est ça qu'il aime, la haine, les rancunes. C'est ça qu'il aime, la diffamation. L'ennemi aime comme ça qu'on parle du mal de quelqu'un qui n'a pas fait. On parle comme ça, ça c'est l'ennemi. Notre ennemi, c'est ça qu'il aime faire. Nous devons nous battre contre lui et non pas contre les hommes. Nous devons nous battre contre lui et non pas contre les gens qui prient. Parce que ceux-là qui prient, ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. On est venu rapporter à Jésus qu'il y avait des gens qui faisaient des miracles en son nom. Les apôtres disent qu'on voulait les interdire parce qu'ils ne sont pas de nôtre. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit. Ne les interdisez pas. Qu'ils fassent ce qu'ils font là-bas parce qu'ils ne peuvent pas faire des miracles en mon nom et aussitôt après parler mal de moi. Ne les interdisez pas. Jésus nous donne lui-même l'exemple de notre attitude par rapport aux autres. Mais l'ennemi que nous devons combattre, c'est Belzéboul. L'ennemi que nous devons combattre, c'est Satan. L'ennemi que nous devons combattre, c'est le diable. Mettons-nous ensemble pour combattre cet ennemi-là. Parce que les temps sont difficiles, les temps sont durs. On s'approche, les éléments sont là, les temps sont forts. Nous ne pouvons plus être distraits. Nous devons prendre position. Parce que l'ennemi est là en train de travailler. Et nous aussi, nous devons travailler, mais sous l'égide, évidemment, de Jésus-Christ. Alors nous allons prier au cours de cette Eucharistie, que le Seigneur nous donne toute la lumière nécessaire pour que nous puissions vivre toute notre vie comme une vie de Trinité, une vie de communion, une vie, n'est-ce pas, de l'Esprit, où l'Esprit agit tout le temps en nous. Demandons cette grâce à travers cette Eucharistie, où Jésus nous révèle le Père et il nous redonne son Esprit Saint. Amen.